Frédéric Le Turc, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes le maire sortant. Vous êtes maire depuis 2011, président de la communauté urbaine d'Arras depuis 2020, conseiller régional depuis 2015, président de l'association des maires du Pas-de-Calais depuis 2020 et candidat donc à votre réélection. Vous menez la liste Arras avec vous, liste sans étiquette politique ?
Une liste de rassemblements, de personnalités bien arrageoises qui veulent s'investir dans la vie de la cité. Et comme je l'ai dit dans différents moments, notre parti, c'est Arras. Voilà, c'est notre engagement collectif avec des sensibilités multiples parce que la société fait ainsi. Et je pense que c'est ce qui fait la force finalement d'une équipe, c'est d'avoir des gens qui sont un peu plus à gauche, un peu plus de sensibilité écologiste, un peu plus à droite, un peu plus centriste, mais le tout forme une belle équipe que j'ai le plaisir d'animer et d'emmener.
Ah oui, justement, à chaque nouvelle liste pour les municipales, il y a des nouveaux visages. Donc, comme vous l'avez dit, vous n'hésitez pas à faire appel à des personnes d'horizons divers. Et cette année encore, on peut dire quelques belles prises. Un ancien chef de la police, Benoît Déféré, la fille de Denise Bocquillet, Sophie Frère-Bocquillet, ou encore Rekia Capdani, syndicaliste et fille de Thérèse Capdani, figure des quartiers d'Arras-Ouest.
Oui, puis vous pourriez citer Patrick Lemaire, qui était candidat sur une autre liste aux dernières élections municipales. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est finalement la sensibilité, la compétence, la diversité, le fait en fait qu'ils représentent des univers différents et qu'ensemble on puisse constituer avec les habitants un projet qui ait de la valeur. Et c'est ça qui fait notre force. Et avoir effectivement Rekia Capdani sur la liste et la fille de Denise Bocquillet, ça montre tout le poids, la force du rassemblement parce qu'on se rappelle tout de même de Thérèse en fait, qui était une figure emblématique et qui avait, dans des années lointaines, combattu Denise Bocquillet aux élections départementales en militant pour une autre candidature. Et ça prouve une chose, c'est qu'il n'y a pas de frontière en fait, définitive, qu'à partir du moment où les gens comprennent le sens dans lequel on travaille, on peut avancer avec de la force et de l'énergie.
Alors justement, votre programme s'est construit au travers de 5 ateliers participatifs et pas mal de vos propositions sont issues de la concertation avec les habitants. Pourquoi ce changement de méthode ? Pourquoi maintenant ?
Parce qu'en 2020, on avait été privé tout de même d'un élan de concertation. Le Covid, en fait, pointé. On avait démarré une campagne tardivement. On ne savait pas trop dans quel cadre on pourrait la conduire. En 2014, j'avais fait une campagne éclair. Donc c'était encore une autre démarche parce que je voulais être maire jusqu'au bout et pouvoir en quelque sorte assurer la continuité des affaires courantes dans un premier mandat, une première partie de mandat puisque j'avais été élu en 2011 à l'interne du conseil municipal. Là j'ai voulu finalement mettre un point supplémentaire sur cette volonté de travailler avec les habitants, confirmer en quelque sorte toutes les démarches que l'on avait engagé avec eux tout au long du mandat, parce qu'on a fait beaucoup de concertations, on a fait beaucoup de reconnexions après le Covid, et cette démarche de dialogue avec les habitants pour des aménagements du quotidien, pour des aménagements ou des réaménagements de lieux. On est ici dans ce qu'on appelle la maison Saint-Éloi. En face, on a la place de l'ancien rivage. C'est un bel exemple en fait, d'une place qui a été imaginée avec les habitants. Et puis, je voulais aussi en fait, que toutes les démarches participatives et de concertation aient du sens, y compris dans une campagne municipale et y compris dans la définition d'un projet municipal. Et je pense qu'on a un peu surpris tout le monde. Donc ça a obligé aussi ceux et celles qui voulaient être candidats à travailler autrement.
Alors dans ces propositions d'habitants et d'habitantes, il y a un peu de tout. Hein. Par exemple, améliorer les conditions d'accueil des associations, ok, super, très bien. Mais par exemple, il y a aussi développer la vidéoprotection et passer à 1000 caméras. Donc 1000 caméras, ça ferait d'Arras la deuxième ville la plus surveillée de France quand même. Est-ce que vous êtes vraiment d'accord à 100% avec ces propositions ?
Ah bah bien sûr, sinon je ne les mettrais pas dans le programme, ça serait inquiétant d'ailleurs si je n'étais pas capable d'être en accord avec le projet que je porte. Moi je pense que la sécurité, c'est un sujet aujourd'hui que l'on dit être le sujet majeur dans toutes les campagnes municipales et une préoccupation particulière dans l'esprit de tous les Français. Et ça se ressent aussi sur Arras. Forcément, on aborde le sujet de la sécurité en pensant en fait à la sécurité du quotidien, à la place de la police municipale qu'on a renforcée sur le mandat. On a recruté 2 policiers par an, à la manière dont on les a équipés, on les a armés, on a créé une brigade canine, on a mis des équipes en vélo ou sur des motos. On essaye d'être agile dans notre manière de travailler. Les caméras, en fait, on équipe la ville depuis 2004, donc ça fait plus de 20 ans, 21 ans, que l'on a mis en place la vidéoprotection. Et on la développe parce qu'on est dans une société qui a besoin d'être tranquille, qui a besoin d'être rassurée. Mais pour moi, la sécurité va au-delà. Hein. Il y a ce travail, en fait, que l'on fait pour tranquilliser le territoire, travailler avec la police nationale. Et puis, il y a le travail que l'on fait pour sécuriser socialement les habitants, pour sécuriser aussi sanitairement les habitants. Et c'est un enjeu, l'accès à un médecin. Bref, pour moi, la sécurité n'est pas uniquement enfermée dans mon esprit sur les côtés sécuritaires, mais ça en fait partie.
La démocratie locale à Arras, les conseils de quartier, comités d'habitants, vous faites régulièrement des balades de quartier aussi. Tout ça, c'est pas nouveau, mais la méthode fait l'objet de pas mal de critiques. Je cite le printemps à Arrajois, et vous me direz comment vous voyez notamment ces critiques. Ils dénoncent des réunions de quartier très cadrées, où la parole est surveillée et rarement libre.
Bah, c'est parce qu'ils ne participent pas beaucoup aux réunions, à mon avis, parce que la parole n'est pas surveillée et elle est totalement libre. Les habitants viennent, participent, s'expriment et je réponds, et souvent en direct et de manière cash, c'est-à-dire que j'ai à cœur en fait de donner des explications, de ne pas en fait faire des promesses qui ne tiendraient pas debout, qui seraient simplement gérer des postures et des positions. Vous voyez, je fais des réunions d'appartement. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis 2011, je fais des rencontres avec des habitants, sans médias, sans collaborateurs, sans photos, sans couverture de quelque nature que ce soit, et je fais ça depuis 2011, j'en ai peut-être fait 350. J'en avais une hier soir. Bah, les habitants qui étaient là, ils étaient une vingtaine, m'ont posé plein de questions, et comme dans une réunion de quartier, c'était cash leurs questions, c'était direct mes réponses. Et au contraire, je trouve que on est en fait dans une société qui a besoin de se parler, qui a besoin de dialoguer. Moi, j'ai été éduqué comme ça, j'ai été formé comme ça, je travaille de cette manière-là. Et je crois que les habitants attendent beaucoup d'un maire en fait, qui soit simple et accessible. Et je pense qu'on ne peut pas me reprocher de ne pas être simple et de ne pas être accessible. Je l'ai encore vu là, en venant jusqu'à vous. J'ai quand même quitté mon bureau à 11h. Il est 14h. J'ai fait une dizaine de kilomètres. J'ai croisé beaucoup de monde. Parce que je ne suis pas venu directement, vous l'avez compris, jusqu'à la place de l'ancien rivage.
J'ai pas mis 3 heures pour venir ici. Ouais.
J'ai fait un grand circuit en fait dans la ville, jamais le même parcours, en empruntant en fait des rues que j'emprunte pas régulièrement, volontairement, et c'est toujours très agréable de discuter de manière très spontanée. Voilà.
On parle encore un petit peu, si vous voulez bien, de concertation des habitants. On va prendre un exemple très concret. On va prendre l'exemple de la ferme Chavatte.
Oui.
Donc vous voyez, quartier du Riez, derrière la gare. Donc c'était la dernière ferme en ville. Monsieur Chavatte est décédé. Les habitants du quartier ont voulu garder ce lieu. La CEA a préempté.
Oui.
Et puis quoi après? Alors on demande leur avis aux habitants, on arrive avec une solution clé en main. Si vous êtes élu, Frédéric Le Turc, qu'est-ce qui va se passer concernant cette ferme Chavatte?
Alors déjà, j'ai reçu un collectif du quartier, et dans les réunions de quartier, on a déjà échangé sur le devenir de la ferme Chavatte. J'avais bien compris en fait qu'il y avait un attachement particulier et que quelque part, en fait, si M. Chavatte décédait, il fallait qu'on ne la laisse pas partir à n'importe quel promoteur immobilier. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais posé une option en disant dès que malheureusement M. Chavatte nous quitte, on rachète le site. derrière, en fait, l'idée, c'est à partir de ce qui a été exprimé par les habitants. C'était, en fait, globalement, d'être dans une sorte de jardin partagé, de lieu, en fait, qui serait ouvert aux habitants. C'est de trouver, en fait, le modèle économique, quand même, qui fasse que la communauté urbaine qui a investi puisse à la fois peut-être apporter une solution à une politique publique que l'on porte, et celle de l'habitat, notamment des personnes âgées en particulier, peut-être d'un type de personnes âgées qui pourraient en fait avoir besoin de vivre dans une ambiance un peu collective, de reconstituer le corps de la ferme Chavatte, qui est un mirage aujourd'hui. Il faut avoir de l'imagination pour savoir qu'il y avait une ferme à cet endroit-là. Il n'y a plus que le pigeonnier, puis une maison, je dirais, des années 70 qui tient debout en façade. Donc, reconstituer le corps de ferme. Tout ce qui n'est pas construit, c'est-à-dire tout ce qui ne représenterait pas un corps de ferme, de pouvoir en quelque sorte être ouvert pour du jardinage, une ambiance collective qui pourrait réunir les locataires vivant dans ce lieu, et puis des gens du quartier, qui pourraient être aussi des acteurs associatifs, puisque à côté il y a une résidence en fait qui accueille des personnes qui ont des problèmes, je dirais, psychiques. En face, il y aura bientôt une autre résidence qui accueillera des jeunes qui, en fait, étaient jusqu'à maintenant des jeunes filles logées sur la Grand Place, et pour des raisons en fait de cession de biens vont se repositionner ailleurs. Bah, l'idée, c'est que tous ces collectifs convergent et qu'on ait en fait, une belle ambiance de cohésion sociale qui puisse s'organiser autour de ce que on pourra continuer à appeler d'ailleurs la résidence Chavatte, pourquoi pas.
Parmi les enjeux majeurs de cette campagne, il y a aussi l'abbaye Saint-Va. Est-ce que le projet d'hôtel de luxe, projet qui n'a pas vraiment fait l'objet d'une vraie concertation, vous l'admettrez? Est-ce que ce projet, c'est une bonne idée?
Alors, deux ou trois choses. La première, c'est que ceux qui disent, et je l'ai lu, que l'abbaye Saint-Va allait se transformer en hôtel de luxe, mentent. Pour une raison simple, c'est que dans l'abbaye Saint-Va, il y aura toujours le musée et la médiathèque. J'ai l'impression que certains l'ont oublié. Je me demande si
en
tout le
temps,
monde...
En même temps, c'est un petit peu repoussé, quoi. On pousse pas du tout. Musée, on repousse un petit peu la médiathèque.
Pas du tout. Il y a 10 000 m² aujourd'hui pour le musée et la médiathèque. Il y aura 10 000 m² demain pour le musée et la médiathèque. Au contraire, on replace la médiathèque dans le cloître. C'est-à-dire qu'on permet aux Arrajois de profiter d'espaces qui aujourd'hui étaient quasiment inaccessibles ou très rarement accessibles, avec au milieu un jardin qui pourrait être un endroit de lecture extraordinaire. On remet aussi, bien évidemment, la même surface pour le musée, avec des expositions temporaires, des expositions permanentes. Les expositions permanentes étant scénographiées à partir des pièces que l'on a au musée, mais aussi une scénographie qui soit innovante et qui permette de replacer l'histoire de la ville dans son contexte, puisque je rappelle que l'abbaye Saint-Va, c'est le premier élément constitutif, en quelque sorte, de la ville d'Arras. Et puis, effectivement, les 10 000 m² qui sont vides, la destination autour de laquelle, en fait, on a fait des études et qui ont, en fait, montré la pertinence, c'est plutôt de faire venir un investisseur qui soit en rapport avec la qualité du lieu. On ne va pas faire un Formule 1, donc un hôtel, en fait, haut de gamme, avec un restaurant, avec des salles de séminaire, avec un bar, avec des espaces en fait de rencontres. Alors certes, certains critiquent ou peuvent critiquer en fait le fait d'amener un acteur économique dans une partie de l'abbaye Saint-Va, mais ça va créer en fait 120 emplois. Ça va permettre de développer une chaîne d'activités en amont, en aval. Et très franchement, moi qui suis maire, qui connais bien les finances de la ville, je sais en fait ce que la ville peut faire, est en capacité de mobiliser en fonctionnement pour déjà assurer le maintien et la vie de tous nos équipements publics. Mais j'ai pas envie que les Arrajois en fait soient obligés de payer plus d'impôts pour en fait animer un lieu qui en fait serait une charge et pas en fait obligatoirement une solution. pour les Arrajois. Donc là, la proposition qu'on a faite et qu'on travaille depuis 2017, c'est en fait un hôtel haut de gamme. Ce sont les études en fait qui ont été réalisées à l'époque. Et quand vous dites qu'il n'y a pas eu de concertation, ceux qui voulaient en fait s'exprimer contre le projet ont pu le faire. Ils sont peu nombreux. Hein. Ceux en fait qui voulaient militer contre le projet ont pu le faire. Très franchement, je ne les connais pas tous. Il y en a très peu qui sont arrajois. C'est bien de lancer des pétitions sur le net. Mais moi, je ne travaille pas avec les Américains. Je ne travaille pas avec, les Japonais ou les Chinois ou les Russes. Hein. Je travaille avec les arrajois, ce qui est quand même une petite différence. Et puis, ceux en fait, qui ont voulu comprendre le projet ont pu faire des visites de fond en comble. Et je pense que tout le monde a compris pourquoi on devait rénover le clos et le couvert, et je viens de passer à côté de l'abbaye. Je pense qu'on aura la chance de vivre dans ce quartier, dans la ville et dans la communauté urbaine, parce que les habitants de la communauté urbaine y sont aussi très attachés, avec un patrimoine complètement revalorisé. Et ça, c'est une très belle nouvelle pour Arras. Le lieu sera réouvert au public en juin 2030.
Un autre grand enjeu de la campagne, la Grand Place d'Arras.
Ouais.
C'est un peu le cœur battant de la ville. Vous proposez la piétonnisation, mais quand ? Il y aura aussi le Crédit Agricole qui s'en va, le Mégarama qui s'installe Val de Scarpe. Qu'est-ce que vous envisagez pour cette place ?
Alors la place, les travaux démarreront en 2027. Il y aura en fait des temps de présentation du projet qui a été construit à partir d'un cahier des charges qui a été imaginé en fait par les équipes, mais aussi dans le dialogue avec les habitants, les commerçants, le comité des sages et des médaillés, des réseaux en fait qui ont apporté un peu leur contribution. Moi, ça fait des années que je mettais le sujet sur la table quand je faisais notamment des réunions de quartier ou des balades. L'idée en fait, c'est de remettre la place, je dirais, praticable pour les piétons. De lui donner en fait une respiration totale, c'est-à-dire de supprimer le stationnement, de supprimer la circulation, sauf des exceptions pour par exemple la citadine ou des accès en fait particuliers pour les personnes à mobilité réduite, de donner en fait des terrasses confortables pour ceux et celles qui ont des activités en fait qui peuvent donner sur le domaine public, d'avoir un miroir d'eau, du mobilier en fait très confortable qui permette aux enfants, aux personnes de pouvoir s'y poser, de poursuivre les événements qu'on a l'habitude de vivre, le marché de Noël et d'autres rendez-vous en fait qui pourront continuer à se tenir sur la Grand Place et de faire finalement connecter, vibrer la Grand Place avec la Place des Héros, avec l'ensemble de la ville, de mettre en scène la cité avec des éléments complémentaires. Donc l'accompagnement du Crédit Agricole qui va rester en partie propriétaire et qui en fait vendra certainement une autre partie pour des logements dans les locaux qui étaient les siens. Deux, d'accompagner le déplacement du cinéma aussi, puisque le cinéma va quitter la Grand Place pour aller sur le Val de Scarpe à côté de Cité Nature. Malheureusement, la rénovation et l'extension du cinéma en lieu et place n'est pas possible là où il est actuellement. Trois, Claire Logis, donc, qui va déménager aussi, ça a été racheté par un investisseur qui va complètement rénover les lieux. Et quatre, l'ancien office culturel dans lequel on avait l'hypothèse d'y installer la police municipale. Et on a étudié en fait techniquement les choses. C'est un peu compliqué. On pourrait le faire, mais ça aura une durée de vie d'une dizaine d'années. Donc la décision qu'on a prise au niveau de la ville et avec la communauté urbaine, c'est plutôt de mettre le poste de police municipale et le centre de supervision ailleurs, sur un boulevard, pour en fait donner plus de flexibilité au lieu et de continuer à accompagner l'extension des services de police qui aujourd'hui sont plutôt des services pour la commune, mais qui demain en fait pourraient être des services pour la commune d'Arras, mais aussi pour les communes voisines qui voudraient profiter éventuellement d'une offre de services en matière de police municipale et de centres de supervision notamment. Donc on essaye de tenir compte de la manière dont les communes aussi veulent travailler ensemble sur ces questions.
Rapidement, Frédéric Le Turc, on parle un peu de la place du vélo en ville. Il y a eu un travail qui a été fait à Arras par endroits, mais bon, dans l'ensemble, ça reste assez timide. On peut dire qu'Arras n'a pas fait sa vélorution.
Bah, c'est votre point de vue, c'est pas le mien. On investit 2 millions d'euros par an pour les mobilités douces. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente, hein, 2 millions d'euros. Ça veut dire que derrière, on réalise en fait des pistes cyclables, pas simplement sur Arras, hein. C'est la communauté urbaine qui est compétente. Donc on relie les communes entre elles. On est en train de réaliser d'ailleurs un cheminement du côté de Mareuil. On en a réalisé un du côté de Sainte-Catherine. On en a fait en fait un peu partout sur les pourtours de la ville en travaillant en fait par cercle. C'est-à-dire qu'on a commencé effectivement à faire des pistes cyclables en ville, à connecter les communes périurbaines et puis petit à petit à trouver les liaisons avec les communes rurale et en ville. À chaque fois qu'on fait des travaux, on améliore en fait les pistes et les connexions des pistes, parce que forcément la ville et la communauté urbaine, ce sont 700 km de voirie. Donc il faut réussir à faire venir en fait une cohabitation dans toutes les rues, et on sait très bien que ça peut être compliqué parfois parce qu'elles sont étroites, pour le vélo, pour le piéton, pour la voiture, pour le bus. Il faut que tout ça en fait cohabite. La citadine, en fait, est un service que l'on apporte aussi en centre-ville et il est gratuit. Et l'idée, en fait, c'est que quelque part, les mobilités douces, prennent petit à petit leur place dans cet univers. On a fait un plan vélo, on travaille sur un plan marche parce qu'il était dans la continuité du plan de mobilité qui, va chercher toutes les, à 360 degrés tous les sujets de mobilité. On travaille même, donc vous le verrez dans les prochains mois, sur un plan de livraison en ville qui évite en quelque sorte aux gros camions de venir jusqu'au centre-ville, mais avec des ruptures de charge forcément et des plateformes, de pouvoir bénéficier de services qui amène en quelque sorte les livraisons sans utiliser en fait des usages qui insupportent beaucoup de monde très tôt le matin ou très tard le soir.
Laura, dernière question.
Dernière question. Eh bien, carte blanche, est-ce qu'il y a un point de votre programme sur lequel vous souhaiteriez insister ?
Bah, le point qui m'intéresse le plus, je dirais, ce n'est pas obligatoirement les points que vous avez abordés, c'est plutôt la relation humaine que je pense on réussit à construire avec les habitants, quels que soient les milieux, quels que soient les quartiers. Ce dialogue en fait naturel et permanent que l'on a avec chacun d'entre eux, qui nous permet de travailler la cohésion sociale, la cohésion territoriale, le vivre ensemble, qui est pour moi en fait quelque chose qui a beaucoup plus de valeur que la rénovation des murs, la réalisation de certains projets. Ce qui compte pour moi, c'est cette manière en fait, de travailler en quelque sorte cette relation humaine qui est la force de la démarche de travail et du projet en fait, que j'ai l'honneur de porter pour les Arageois. Et je pense que depuis 2011, j'ai accentué ce travail et cette relation. Elle était déjà présente quand j'étais adjoint. Elle était déjà présente et en construction quand j'étais directeur de cabinet. J'ai beaucoup appris aux côtés de Jean-Marie Van Lorenberg, mais je pense que j'ai apporté ma tonalité et que cette tonalité, elle est appréciée par le plus grand nombre. Et c'est ce qui me fait plaisir. En tout cas, c'est ce que je ressens dans mon quotidien de maire, mais c'est ce que je ressens surtout dans mon quotidien de candidat.
Alors juste pour terminer aussi là-dessus, on remarque aussi que dans les propositions que vous avez reprises, formulées par les habitants et les habitantes, il y a beaucoup de ces propositions qui veulent créer des nouveaux espaces de partage.
Oui, parce que en fait, c'est aujourd'hui un vrai besoin. Je pense que le Covid, l'assassinat de Dominique Bernard, ce qui se passe dans le monde, d'une manière générale, la fracture familiale, l'éclatement des familles, la difficulté en fait pour certains de travailler sur non plus les fins de mois mais les débuts de mois, conduit à ce que on ait un devoir quand on est maire d'essayer en fait de renforcer la solidarité, mais pas la solidarité je dirais uniquement généreuse, la solidarité du cœur, de l'esprit et de la relation humaine. Et c'est ça, en fait, qui a beaucoup de valeur. Il y a des gens qui n'ont pas grand-chose et qui partagent. Il y a des gens qui ont beaucoup et qui partagent aussi. Et il faut, en fait, que finalement, tous les mondes puissent continuer à se rencontrer. En tout cas, moi, ce qui me tient à cœur, c'est de faire dialoguer en permanence tous les Arageois et de faire que les différentes classes sociales, les différentes populations puissent se retrouver, se rencontrer, qu'ils se fréquentent pas simplement par obligation, mais ensuite qu'ils se saluent naturellement dans la rue. Voilà. Et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand les personnes, en fait, se parlent tout simplement quand, en ma présence ou sans moi. Et plus les gens se parleront quand je ne suis pas là, mieux, en fait, je saurai que la ville bat, en fait, avec un cœur, je dirais, positif, uni et généreux.